Vous écoutez On lit pour vous.
Je vis avec un chialeux. Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 8 décembre 2024 dans la presse. Se plaindre, tout critiquer, se lamenter. Pour certains, le chialage est un vrai mode de vie. Mais ce n'est pas toujours facile pour un conjoint ou une conjointe qui subit ces geignements comme un paratonnerre. Y a-t-il quelque chose à faire pour corriger le tir? Un psychologue et une coach conjugale nous donnent des pistes. Tout le monde est amené à se plaindre. Mais à partir de quand cela peut-il être considéré comme une situation problématique dans un couple? Pour le psychologue François Saint-Père, la généralisation de l'attitude négative constitue un point de repère. Si c'est généralisé et pas juste localisé, quand la personne a comme mode de fonctionnement de critiquer un peu tout, plusieurs fois par jour, avec des charges émotionnelles relativement intenses, ça devient un problème, indique-t-il. Du côté de la coach conjugale Valérie Santaine, cofondatrice d'En Duel ou En Duo, il faut examiner la portée des impacts de ces plaintes pour l'autre. Certains y résistent très bien, et si cela engendre un conflit, ce qui n'est pas systématique. Si les deux membres ont une vision plus pessimiste de la vie et se plaignent ensemble, ils pourraient bien connecter et cela n'entraînera pas forcément de problèmes de couple, même si cela peut en causer dans d'autres contextes sociaux, évalue-t-elle. Des oreilles tendues. Pour la coach conjugale, il est nécessaire avant tout de passer de la réaction à la compréhension. Je pense que c'est le pivot le plus important. Pourquoi mon ou ma partenaire se plaint? Est-ce lié à une dépression ou à une habitude de communication? Un héritage familial ou une faible estime de soi qui pousse à chercher de la compassion? Des douleurs physiques? Une fois qu'on l'aura compris, ça nous permettra de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire voir si la personne souhaite changer. M. Saint-Père incite également à examiner l'origine possible de ce négativisme, qui peut être familial, culturel ou environnemental, dans une société poussant à l'excellence et au perfectionnisme. Telle analyse appelle éventuellement un travail thérapeutique. Ça peut être multifactoriel, souligne-t-il. Une fois ces divers facteurs identifiés, on peut chercher à développer un système de croyances et de valeurs plus réalistes. Pour le psychologue, les oreilles devraient s'ouvrir des deux bords du couple, car le partenaire qui subit un chialage incessant gagnerait à exposer à l'autre les impacts d'une telle attitude. Étiolement de son empathie, distanciation, agacement, etc. Par ailleurs, il prévient que la simple compassion atteint rapidement sa limite, pouvant même exacerber le problème et renforcer le comportement, le chialeux ayant trouvé un auditoire réceptif à ses plaintes. Sonder les conditions du changement. Valérie Santaine incite, une fois les origines du négativisme élucidées, à poser trois questions. Le partenaire est-il capable de changer? Si oui, le veut-il? Et si oui, le décide-t-il? Si toutes les réponses sont affirmatives, le conjoint peut alors prendre un rôle de soutien. Selon Valérie Santaine, on peut devenir un supporteur au changement en étant un modèle pour son partenaire ou en instaurant des activités de couple favorisant le développement d'une attitude positive. Beaucoup de mes clients pratiquent par exemple tous les soirs des rituels de gratitude et de reconnaissance sur les choses du quotidien. Ils en tirent grand bénéfice. En revanche, si cela prend sa source dans l'anxiété chronique, une dépression ou un trouble de personnalité, mieux vaut laisser un thérapeute jouer ce rôle de soutien. S'il n'y a pas de capacité ou de volonté de changement, la coach conjugale suggère de mettre en place des balises. On va évaluer jusqu'où l'attitude de plainte est saine ou malsaine pour soi et poser une limite dans le respect de tous. Ça pourrait être « Quand tu te plains, J'ai envie d'être là pour toi, mais j'ai une limite. Quand j'ai assez entendu de négatif, j'aimerais que la conversation tourne vers du positif ou qu'on y mette fin, illustre Madame Centaine. Dépasser les bornes. En cas de dépassement des limites, ou si la situation devient trop lourde, la remise en cause du couple pourrait survenir. Valérie Centaine propose alors de faire un petit calcul coût-bénéfice de l'ensemble de la relation et de jauger le poids du chialage dans la balance. Pour François Saint-Père, l'évocation d'une éventuelle rupture peut créer un électrochoc. C'est quelque chose qui frappe tellement que la personne pourrait être prête à l'entendre de façon sérieuse et amorcer un travail. Le psychologue invite à l'indulgence, à la patience et à la persévérance. Au lieu de juger, il ne faut pas oublier que la première personne à souffrir est celle qui chiale tout le temps. Elle vit de la déception et de la frustration. Et un tel trait n'est pas facile à changer. C'est long, ça demande beaucoup d'énergie, d'effort. C'est une double souffrance pour les membres du couple. C'était « Je vis avec un chialeux », un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse.
Petits terrains contaminés, grandes exigences de la ville de Montréal. Un texte de Marco Fortier, paru le 5 décembre 2024 dans Le Devoir. En rénovant son garage au printemps 2022, Samuel Rousseau a fait une découverte qui lui cause encore des maux de tête. Un vieux réservoir de mazout plein de trous était enfoui sous le plancher de béton. 2 ans et demi plus tard, le réservoir a été enlevé et le sol a été entièrement décontaminé au coût faramineux de 268 000 $, mais le propriétaire se démène contre des règles kafkaïennes pour accéder à un programme d'aide financière de la ville de Montréal. Je n'aurais jamais pensé vivre un parcours comme celui-là. J'ai été laissé à moi-même depuis plus de 2 ans à toutes les étapes des travaux. Je demande aux élus « Comment vous faites pour gérer votre programme ?» lance le propriétaire d'un triplex situé sur le boulevard Gouin dans le quartier Ahuntsic, dans le nord de Montréal. Samuel Rousseau affirme avoir achevé la décontamination et fourni toute la documentation requise par la ville il y a près d'un an. Mais il attend toujours l'aide financière de 199 000 $ à laquelle il estime avoir droit. Il a dû réhypothéquer son immeuble pour payer les travaux et les autres frais, totalisant plus de 268 000 $ de réhabilitation de son terrain. Ce Montréalais n'est pas le seul à devoir patienter. La ville confirme que la demande pour ce programme est anormalement élevée, ce qui allonge le traitement des dossiers. Cette histoire a commencé en avril 2022. En démantelant un mur de son garage, Samuel Rousseau a aperçu des tuyaux qui sortaient du plancher de béton. Intrigué, il a cassé le plancher au marteau-piqueur. Il a alors découvert une structure en acier enfouie dans le sol. En creusant, il a constaté qu'il s'agissait d'un réservoir ayant laissé fuir du carburant. Un entrepreneur spécialisé lui a ensuite révélé l'existence d'un programme de subvention pour la réhabilitation de terrains contaminés. Ce programme de 75 millions de $, financé par le ministère de l'Environnement du Québec, est géré par la ville de Montréal. Le but est d'accélérer la décontamination des terrains résidentiels et commerciaux de la métropole. Samuel Rousseau préférait financer lui-même les travaux de décontamination, qui lui semblaient plutôt simples. Après tout, il ne s'agissait que d'un simple réservoir, comme en sont dotés des dizaines de milliers de résidences. Il suffirait d'enlever la structure métallique et la terre contaminée, d'expédier tout ça dans un lieu d'enfouissement réglementaire, et hop, le tour est joué. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Par principe, le Montréalais a envoyé une mise en demeure au propriétaire précédent qui lui avait vendu l'immeuble 10 ans auparavant et qui disait ignorer la présence de ce réservoir de mazout. C'est là que ça se complique, parce qu'il allait de soi que, pour espérer un éventuel dédommagement de l'ancien propriétaire, Samuel Rousseau devait d'abord faire une demande de subvention. Un parcours du combattant. Le propriétaire du triplex a vite constaté qu'il avait affaire à une machine administrative d'une complexité hors de l'ordinaire, tellement qu'il a embauché un consultant pour remplir la paperasse. La stratégie a été insuffisante. Même l'expert a échoué à satisfaire toutes les exigences de la ville. Il a fallu que je me transforme en grand entrepreneur. C'est du travail presque quotidien, raconte Samuel Rousseau, qui est pourtant familier avec les rouages administratifs d'une ville. Il travaille pour le service d'urbanisme d'une municipalité de la région montréalaise. Il a dû faire un appel d'offres public pour sélectionner le maître d'œuvre des travaux et recommencer l'appel d'offres 2 mois plus tard pour une raison technique. Il a aussi dû embaucher un surveillant de chantier, puis obéir à 2 lois et à une série de politiques gouvernementales sur l'élimination des sols contaminés, y compris mener 2 études de caractérisation des sols. On a même exigé qu'il conçoive et installe sur son terrain un panneau indiquant que les travaux sont rendus possibles grâce à une subvention qu'il n'avait pas obtenue. Les directives étaient très précises. Il devait notamment afficher les logos de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. Coup de balai. Près 1 an après la fin des travaux de décontamination en septembre 2024, la Ville a soumis 12 questions supplémentaires aux propriétaires. Il devait aussi prouver qu'il n'y avait pas de métaux lourds dans le sol. Samuel Rousseau a dû creuser à nouveau près du garage pour prélever des échantillons de terre. Un rapport de 160 pages de la firme Sferatest Environment, daté du 2 octobre 2023, certifie pourtant que le terrain est conforme aux normes environnementales. Il est possible d'établir que les sols contaminés au-dessus du critère B qui était en place dans le secteur de l'ancien réservoir souterrain de mazout léger ont été retirés de la propriété et acheminés à un site autorisé. Par conséquent, aucune difficulté environnementale justifiant une investigation complémentaire n'a été relevée. Un peu plus de 96 tonnes métriques de sol ont été excavées et envoyées au site d'enfouissement d'Englobe à Montréal-Est, note le rapport. Le terrain a été complètement décontaminé. On a passé le balai sur la roche-mère, assure Samuel Rousseau. Il a reçu la confirmation le mercredi 4 décembre 2024 qu'il recevrait une subvention de 84 600 $ après que Le Devoir eut posé des questions à la Ville au sujet de son dossier. Samuel Rousseau est déçu car la Ville avait laissé entendre qu'il aurait droit à près de 25 000 $ de plus au terme du processus d'évaluation de sa demande, ce qui est très loin des 199 000 $ admissibles à la subvention, selon ses calculs. Il entend demander des explications à la Ville. « Je ne comprends pas cette décision. J'ai l'impression depuis le début qu'ils sont suspicieux envers les citoyens, comme si on était de mauvaise foi. » Analyse méticuleuse. Au moment où ces lignes étaient écrites, la Ville de Montréal n'était pas en mesure d'expliquer les raisons de cette subvention de 84 600 $. Elle reconnaît toutefois que la patience des citoyens est mise à l'épreuve par l'attente due au volume croissant de nouvelles demandes reçues en 2023 pour 2 programmes d'aide financière voués à la réhabilitation des sols. Une campagne de communication a été lancée en juillet 2024 pour expliquer la situation aux requérants. Nous nous sommes engagés à tout mettre en œuvre pour accélérer le traitement des demandes et réduire les délais. C'est notamment pourquoi une nouvelle ressource a été engagée à la fin du mois d'août, indique Nikki Caillé, relationniste à la Direction des affaires publiques et du protocole de la Ville de Montréal. Les délais observés dans le traitement des dossiers de décontamination sont dus à plusieurs facteurs, dont la complexité du dossier, un dossier incomplet et des analyses poussées et méticuleuses. Soulignons que ces délais sont nécessaires pour assurer un traitement rigoureux et conforme des dossiers, ajoute-t-elle. la rigueur est de mise parce que des sommes considérables sont en jeu. Ces vérifications visent à garantir la conformité aux exigences réglementaires du ministère de l'Environnement ainsi qu'à prévenir la corruption, précise la porte-parole. C'était « Petit terrain contaminé, grandes exigences de la ville de Montréal », un texte de Marco Fortier paru le 5 décembre 2024 dans Le Devoir.
Les pièges à éviter, un texte de Maude Goyer, paru le 3 septembre 2024 dans La Presse. Fin d'année rime avec évaluation annuelle. Stressante et lourde pour certains, elle est pour d'autres l'occasion de parler d'ambition et de créer des relations. Que l'on soit gestionnaire ou employé, elle est utile à condition d'être bien préparé. Peu importe de quel côté de la table on se retrouve, la préparation en amont est la base. Il y a plusieurs facettes à l'évaluation, dit Michael O'Leary, vice-président principal Est du Canada chez Robert Half. C'est une erreur pour l'employeur de faire un monologue sans avoir de l'information sur l'employé et sans aller chercher de la rétroaction de sa part. Et c'est une erreur pour l'employé de ne pas faire un peu de recherche avant la rencontre. La recherche sur l'état de l'industrie, sur le salaire moyen pour le type de poste occupé, sur la situation actuelle de l'entreprise, est une bonne base à la discussion, indique l'expert. Il ajoute que la préparation de l'employé doit aussi inclure une liste de ses bons coups. Au lieu d'être présent de façon réactive, il faut être proactif, précise M. O'Leary. Souligner les bons coups. La professeure Joëlle Carpentier du département d'organisation et de ressources humaines de l'Université du Québec à Montréal rappelle l'importance de noter les bons coups de début d'année. Puisqu'ils sont plus loin dans le temps, ils ont tendance à être oubliés, mentionne-t-elle. Les études démontrent que l'évaluation annuelle fait place à beaucoup d'insatisfaction, autant chez les gestionnaires que chez les employés. Elle est rarement représentative de ce qui s'est passé dans l'année, parce qu'on accorde souvent une importance plus élevée aux événements plus récents, mais on se souvient des événements négatifs de début d'année. Ne pas reconnaître les bons coups est une erreur à éviter, tout comme croire que tout sera réglé en une rencontre. On ne peut pas attendre à cette rencontre pour donner de la rétroaction sur des éléments cruciaux. Par exemple, un problème de performance ou d'assiduité doit être adressé rapidement, nous dit Jeannette Boulanger, associée Service Conseil et Ressources humaines chez Raymond Chabot Grant Thornton. L'évaluation annuelle doit être vue comme une étape d'une discussion en continu, croit Mme Carpentier. Sinon, ça devient lourd, précise-t-elle. Il faut plutôt voir ça comme la fois où on met les choses sur papier de façon un peu plus formelle. En toute simplicité, l'employeur devrait garder ça simple pour éviter de voir l'évaluation comme une montagne administrative, un fardeau, et avoir envie de la reporter. La rencontre peut tourner autour de trois points: ce qui va bien, ce qui va moins bien, comment on va s'améliorer. Parfois, il faut revenir à la base, dit Mme Boulanger. Faire cela en lunchant, ce n'est pas la meilleure idée, car il peut y avoir des oreilles autour, souligne Jeannette Boulanger. Et en virtuel? Oui. Enfin, ça dépend du contexte, précise-t-elle. Des biais. L'évaluation sert aussi à entrer en relation, à apprendre à se connaître, à solidifier les liens. L'évaluation aide à clarifier, apprendre, comprendre, bâtir, note Joëlle Carpentier de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Pour l'employeur ou le gestionnaire qui fait l'évaluation, prendre conscience de ses biais cognitifs permet de prendre un pas de recul. Si quelque chose risque d'affecter notre évaluation, il faut le savoir, dit-elle. Est-ce que quelque chose va teinter les discussions ou influencer la perception positivement ou négativement? Pour l'employé, l'évaluation doit être une occasion de faire valoir ses compétences, ses formations, ses habiletés ou ses outils acquis. C'est aussi le moment pour parler de ses projets, de ses idées et de ses ambitions, remarque Madame Carpentier. C'est une occasion d'apprentissage et de se donner du pouvoir comme employé, dit-elle. Le piège numéro un, ce serait de se taire. On peut influencer la discussion. Il faut en profiter. Être sur la défensive, en protection de son ego, est aussi une erreur, ajoute-t-elle. Outils de rétention. Jeannette Boulanger est du même avis. Selon elle, l'employé ne doit pas tenir pour acquis que l'employeur connaît tout ce qu'il a fait dans l'année. Je suggère toujours de faire un document de suivi pendant l'année où l'employé peut indiquer ses bons coups, les courriels ou les commentaires positifs. Cela servira pour rafraîchir la mémoire. Finalement, parmi les erreurs communes à éviter, Michael O'Leary, de la firme Robert Half, expose l'importance des suivis. S'il n'y a pas de retour dans les semaines ou les mois qui suivent, ça ne sert à rien. Il ne faut pas oublier que l'évaluation et les suivis qui en découlent peuvent être de formidables outils de rétention. C'était « Les pièges à éviter », un texte de Maude Goyer, paru le 3 septembre 2024 dans la presse.
Démystifier l'effet des micro-organismes dans l'air sur la santé. Un texte d'Isabelle Delorme paru le 16 novembre 2024 dans Le Devoir. Elle s'est intéressée aux effets des bioaérosols sur notre santé bien avant la pandémie de COVID-19. Caroline Duchesne, professeure titulaire au département de biochimie, microbiologie et bioinformatique de l'Université Laval, a reçu le prix ACFAS Jacques Rousseau 2024. Son approche multidisciplinaire a notamment permis de mieux protéger les patients à l'hôpital contre la gastro-entérite. Dès sa maîtrise en physiologie-endocrinologie, obtenue à l'Université Laval en 1993, la chercheuse a compris qu'elle n'avait pas envie de se spécialiser dans un seul domaine. « Je me suis dit que je ne deviendrais peut-être experte en rien, mais que je m'amuserais dans beaucoup de choses », lance celle qui collabore avec des experts de disciplines aussi diverses que la microbiologie, la physique, la médecine, le génie agricole, la météorologie ou encore l'intelligence artificielle, pour n'en citer que quelques-unes, car la liste est longue. Sa thèse sur la microflore de l'air des fermes laitières du Québec l'a amenée à s'intéresser très tôt aux bioaérosols, des particules biologiques en suspension dans l'air qui incluent par exemple des virus, des bactéries, des champignons, des pollens, des allergènes ou des toxines, et à leurs effets sur la santé humaine. Pour les comprendre, il faut notamment explorer leurs propriétés biologiques et chimiques, mais aussi leur trajectoire qui relève de la physique. Au début de ma carrière, cette science complexe en était encore à ses prémices, raconte-t-elle. Cela m'a beaucoup stimulé car, dès que j'avais une idée, j'étais presque certaine que personne ne s'y était encore intéressé. Meilleure protection contre la gastro-entérite. En 2015, son étude sur le rôle de l'air dans la transmission de la gastro-entérite a bouleversé les idées reçues sur cette maladie très contagieuse. La communauté scientifique associe habituellement les bioaérosols aux maladies respiratoires. Or, une partie des particules que nous respirons pénètre dans les poumons, mais la grande majorité d'entre elles sont avalées, explique la chercheuse. En se penchant sur une éclosion de gastro-entérite à l'hôpital, Caroline Duchesne et son équipe ont constaté que la plupart des cas n'avaient pas été en contact avec des patients atteints. des brancardiers ou du personnel de ménage avaient été contaminés en inhalant et en ingérant des particules de virus transportées dans l'air. À l'hôpital, nous conseillons d'isoler les chambres des patients atteints de gastro-entérite de telle sorte que le virus ne s'échappe pas des chambres, indique la chercheuse. En 2016, sa découverte a été présentée par le président du European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases devant plus de 15 000 acteurs du milieu hospitalier et ingénieurs en ventilation. Une chercheuse sans frontières. Actuellement, Caroline Duchesne dirige un projet sur le rôle des bioaérosols dans la dispersion des gènes de résistance aux antibiotiques, qui se terminera en 2025. Son écosystème fait collaborer des experts de près d'une quinzaine de spécialités, allant de la bioinformatique à la physiologie animale. Nous sommes allés prélever des dizaines de milliers d'échantillons dans l'air à proximité de terres agricoles, d'une porcherie, d'une usine d'épuration des eaux usées, mais aussi dans les nuages, dans le Grand Nord et lors d'une traversée transatlantique en bateau, décrit-elle. L'un des objectifs est de savoir si nous pourrions être exposés à des bactéries résistantes transportées depuis d'autres pays par les nuages ou les vents. Et si nous avalons ces gènes de résistance, peuvent-ils changer notre microbiote intestinal? Se demande la chercheuse qui observe déjà de beaux résultats. Joueuse de batterie dans un groupe, mère de 3 enfants et éleveuse de 3 chats, Madame Duchesne a le sens du collectif. Dans le monde de la recherche, il y a beaucoup de professeurs tournesols, très investis dans leur propre mission. Il y a de l'orgueil, le besoin de posséder sa connaissance, de l'exploiter et d'en conserver le mérite, observe celle qui explique modestement que sa première qualité a été de savoir s'entourer. Environ 160 étudiants sont passés dans mon laboratoire depuis le début de ma carrière et j'ai des professionnels de recherche qui sont là depuis le début des années 2000. Tous sont des gens formidables aux profils différents, souligne la chercheuse. Quand elle porte sa casquette de professeur, Caroline Duchesne forme également la relève avec le cours de premier cycle « Bioaérosol et aérobiologie » qu'elle a co-créé en 2010 à l'Université Laval. Nous avons été les premiers au Québec à enseigner la science des bioaérosols, souligne-t-elle, un programme ouvert à des étudiants d'horizons variés pour une meilleure compréhension de l'air que nous respirons. C'était « Démystifier l'effet des micro-organismes dans l'air sur la santé », un texte d'Isabelle Delorme paru le 16 novembre 2024 dans Le Devoir.